Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot sur RTL.
Vous connaissez la formule habituelle de Marc-Olivier Fogiel. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre.
Bravo, vous l'avez fait.
C'est
formidable.
Comme ça. C'est On refait le monde avec, vous l'avez reconnu, elle est là, la rédactrice en chef de Causeur, Elisabeth Lévy. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
À ses côtés, le politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse Roland Cayrol.
Bonsoir Vincent.
Et face à eux, Xavier Couture, conseiller audiovisuel. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et bien sûr, l'un des chroniqueurs politiques d'RTL, Olivier Mazerolle.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Olivier.
Et avec tout ça, bien évidemment, pour les réseaux sociaux, Benoît Galeret. Bonsoir. Bonsoir Benoît.
Salut. Alors, très jolie coiffure.
Ah oui, très jolie coiffure, mais vous aussi. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de...
très intéressant.
C'est, voilà.
Ah, c'est un début.
Ouais, ouais, c'est un début, mais j'espère que vous aurez des choses plus intéressantes à dire.
Vous êtes tellement,
non plus,
c'est tellement bien quand vous parlez chiffon.
Non, je voudrais qu'on commence par cette histoire de marée populaire, c'est-à-dire cette grande manif annoncée pour le 26 mai. Marée populaire, c'est le nom qui leur a été donné, évidemment, par les organisateurs. En gros, une cinquantaine d'associations, de syndicats, de partis politiques qui ont décidé de défiler ensemble, de marcher le samedi 26 mai contre Emmanuel Macron, contre la politique d'Emmanuel Macron. Et là, pour la première fois, eh bien, la CGT décide de s'y associer et donc de s'associer à un parti politique, en l'occurrence la France Insoumise. Ce qui est relativement nouveau, ça c'est déjà, mais relativement nouveau si on regarde les dernières années pour la CGT. Est-ce que c'est un tournant qui veut commencer? Roland Cayrol, c'est évidemment Benoît Galeret pour
pas
les réseaux sociaux qui ouvrent le bal.
C'est pour Benoît, ça que je me permets d'intervenir parce que vous allez être surpris, beaucoup ne sont pas vraiment choqués, ça change rien, ils sont présents ensemble dans toutes les manifs, dit Marc, on retrouve toujours les mêmes râleurs qui n'acceptent pas les changements nécessaires, alors un peu plus, un peu moins. Ils vont user leurs semelles, c'est tout, un flop de plus, confirme Bernard. Mais la CFDT Dampierre accuse la CGT d'enterrer la charte d'Amiens, ce qui est grave et dommageable. Une erreur pour le mouvement syndical, dit-elle, quand Creil préfère applaudir. Enfin l'unité sociale et politique face au capital, le 26 mai, tous dans la rue. Clémentine Autain également se félicite de cette avancée vers un front pour damner le pion au gouvernement. C'est du tous ensemble pour réussir à obtenir gain de cause sur la SNCF, dit-elle. Bah oui, bah les masques, au moins c'est clair maintenant. La CGT protège pas les travailleurs. Elle roule pour la France insoumise et ses extrémistes, accuse Antoine. Fabrice aussi voit l'aveu que la CGT ne défend pas les ouvriers, mais une idéologie marxiste et dépassée, dit-il. Sylvain voit surtout la débandade de la CGT. Eva Canossa, elle cède complètement devant Mélenchon. La marée du 26 mai appartient à tous ceux qui la feront réussir, répond l'intéressé sur Twitter. La CGT fait plus en plus de politique et la CGT a de moins en moins d'adhérents. Où est la cause? Où est la conséquence? Je penche pour un cercle vicieux, moque Olivier. C'est ça, la France Insoumise se prend pour un syndicat et la CGT pour un parti politique, résume Léon. Juste une question, ricane Jean-Yves pour finir. Si jamais le 26 Macron n'était pas renversé, imaginons, une autre date d'action commune est-elle prévue en juin? C'est pour poser mes congés.
Voilà donc ce que disent les réseaux
ça,
sociaux.
C'était le meilleur.
Une petite précision quand même, puisque pour annoncer ce qui est présenté comme un événement à la CGT, Philippe Martinez, il avait piscine aujourd'hui. Hein. Il n'était pas là et visiblement, il n'est pas totalement en phase avec ceux qui ont décidé ça. Donc, Roland Cayrol, un commentaire.
Je crois qu'il n'y a pas de vraie surprise dans cette annonce, puisque depuis plusieurs semaines, les dirigeants confédéraux, y compris la responsable principale auprès de Philippe Martinez, qui était donc d'accord, étaient dans le comité de préparation de cette manifestation. Donc, ils savent ce qu'ils font, ça fait plusieurs semaines. Ils ne l'ont pas dit tout de suite officiellement, parce qu'ils ont eu peur que ça fasse le sproum que ça fait là, la preuve, on en parle. Et du coup, ils se sont fait valider par le comité confédéral national, qui est une sorte de parlement de la CGT, qui a voté une large majorité.
Ils 78 donc, ont voté.
Voilà, ils savaient donc qu'ils couraient un risque et ils ont voulu l'assumer collectivement. Les plus vieux d'entre nous avaient été habitués au lien entre la CGT et le Parti communiste. La courroie de transmission, le secrétaire général de la CGT était forcément membre du bureau politique du Parti communiste. Mais au fil des années, tout ça avait disparu et la CGT était fière d'affirmer, même si c'était souvent un communiste qui la dirigeait,
son
indépendance politique par rapport au parti. Moi, il me semble que c'est à la fois révélateur et dangereux. Révélateur parce que Martinez et la CGT ont besoin de donner un coup de barre à gauche pour leur prochain congrès, pour montrer qu'ils sont avec tout ce qui bouge, pour faire attention à Sud qui, de temps en temps, les déborde dans les mouvements sociaux. Bref, c'est quelque chose de très contrôlé par Martinez depuis un an, que de mettre cette barre le plus à gauche possible pour qu'on identifie bien la CGT comme le syndicat des luttes. Et le danger, c'est qu'il le payera. Les Français n'aiment pas la politisation syndicale, y compris les Français qui votent à gauche. Les autres syndicats ont bien pris soin de dire, CFDT, FO, etc., qu'il n'était pas question qu'ils fassent une chose pareille. Et je pense que c'est dangereux pour la CGT.
Et Elisabeth Ebivé, vous dites en tout cas que Philippe Martinez...
Il n'a pas l'air chaud, non.
Il n'a pas l'air très chaud.
Il est absolument partant. Ouais. Il faut qu'il joue celui qui sait que c'est un moment historique, qu'il faut faire attention, etc. Mais il est absolument dans le coup.
Ah oui. Bon. D'accord. Non mais au-delà même de la, non mais Elisabeth. Quand même au-delà même de la CGT, il faut quand même s'interroger deux secondes sur cette idée, si vous voulez, parce que la grande marée populaire contre la politique antisociale du gouvernement Macron. J'adore pas la politique de Macron, mais nous expliquer que dans le pays, si vous voulez, il y a une espèce de pauvreté massive, c'est Dickens partout. On nous présente et on voit bien que cette convergence des luttes, c'est un front du refus et que la partie politique aussi a perdu, si vous voulez. Vous voyez bien qu'il n'arrive pas, personne, comme l'a dit très drôlement un des internautes, si d'aventure il n'était pas renversé, en réalité, si vous voulez, même les gens qui n'aiment pas la politique de Macron ne sont pas prêts à aller prendre le maquis, si j'ai bien compris. Donc tout ça est quand même un peu de la comédie, si vous voulez, extrême-gauchiste, sauver un peu, comme ça, une espèce de théâtre. Mais à mon avis, il n'y a rien derrière.
Ils ont perdu le combat à la SNCF, ils ont perdu le combat à la SNC, il y a quand même un symbole, ce qu'il est convenu d'appeler les systèmes intermédiaires, c'est ce qui permet de créer l'intermédiation entre le monde politique, le monde administratif et le monde du travail, souffre de manière dramatique depuis plusieurs années. Il n'y a plus, évidemment, et Roland l'a rappelé, d'appui politique de la CGT à gauche, puisque le Parti communiste n'existe plus comme une courroie de transmission, enfin comme une force de proposition politique crédible dans ce pays, ou très crédible dans ce pays. Donc, la CGT est un peu orpheline. La CGT voit débarquer le remplaçant du Parti communiste, qui est le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et de manière, je dirais, automatique, elle s'arrime à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle a très peur de se voir déborder avec un mouvement qui, et ça, évidemment, vous l'avez rappelé tous les deux, il y a, chez Mélenchon, une volonté d'expression syndicale, entre guillemets. Et donc, il y a évidemment, maintenant, pour Martinez, une obligation d'expression politique. Il y a, à défaut de convergence des luttes, il y a convergence des intérêts. J'ajouterais que ça ne manque pas de sel d'imaginer que les 78 organisations qui ont voté la participation à cette manifestation politique viennent voter cela 50 ans après que la CGT avait déserté absolument le monde politique manifestant en 68. En 68, la CGT s'était bien mise à l'abri de voir d'une manière ou d'une autre sa parole venir conforter leur... Oh, pour l'essentiel, elle avait quand même...
Elle était quand même bien d'accord avec les communistes.
Elle était bien d'accord avec les communistes. Et les communistes étaient bien d'accord pour ne rien faire.
On est d'accord.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de vide syndical, il y a une sauf un jour. Il y a une sorte fameux jour Renault.
Le 29 mai.
29 mai.
Quand De Gaulle avait disparu.
Mais quand De Gaulle avait disparu. Mais je pense qu'il y a une sorte de grande, je dirais, interrogation syndicale. Et pour l'instant, s'il y a une grande marée, c'est possible. Mais les syndicats, eux, sont sur la plage. Ils sont bien seuls.
Bon, alors j'attends avec impatience ce que va nous en dire Olivier Mazerolle dans un instant. Mais on doit faire de la pub tout de suite. Voilà. Donc Olivier, dans un instant. Et puis ensuite, on va évoquer, les voyages des ministres aujourd'hui. Ils ont parcouru la France.
Si,
à la reconquête de la province. C'était
leur boulot.
Ils
sont allés dialoguer avec les Français.
Allez, à tout de suite sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir.
Vincent Parisot.
On refait le monde avec Elisabeth Lévy, Roland Querol, Xavier Couture et Olivier Mazerolle. Justement, Olivier, avant de parler des ministres qui sont allés retisser le lien avec la province, je voudrais savoir, juste Olivier, parce que les autres en ont parlé, la CGT qui s'acoquille avec la France Insoumise, ça vous inspire, Ça vous inspire quoi ?
Je crois que c'est une manifestation de faiblesse énorme de la part de la CGT, parce que Philippe Martinez, il joue effectivement sa peau actuellement, notamment avec le conflit à la SNCF. Et il voit bien que, on ne sait pas quelle en sera l'issue, mais enfin, il voit bien que c'est quand même assez mal engagé pour obtenir un résultat concret qui puisse satisfaire ceux qu'il a entraînés dans cette grève. Et à partir de là, il lui faut essayer de trouver des alliés. Et effectivement, comme ça a été dit précédemment, auparavant, la CGT pouvait s'appuyer sur le Parti communiste pour le relais politique. Mmh. Et donc, donner à ces militants un espoir qu'il y ait un jour une expression politique qui permette d'arriver aux vœux et aux ambitions prônées par la CGT. Là, effectivement, le relais politique, c'est Mélenchon. Et il faut à la CGT trouver du renfort pour
donc, y a pas le choix.
À donner une espérance. Donc il n'y a pas le choix. Mmh. Alors les deux se nourrissent mutuellement. Mmh. France Insoumise, CGT. C'est effectivement assez curieux de voir ça parce que quand même les trotskistes maintenant, la CGT se tournait du côté des trotskistes plutôt que du côté du Parti communiste. Et bon, évidemment. Enfin, finalement, ça nous amuse, nous.
Le Parti communiste est dedans.
Je me permettais tout à l'heure de dire qu'en 1968, effectivement, à un moment donné, les communistes avaient failli vaciller quand le général de Gaulle avait disparu. Ça a duré une journée. Ils ont créé un peu le pouvoir populaire. Puis, dès le lendemain, ils avaient
repris.
On en arrive à ce deuxième sujet dont refait le monde. C'est kilomètres parcourus aujourd'hui par nos ministres. Elisabeth Borne à Toulouse, Marlène Schiappa à Alès, Florence Parly à Verdun, Françoise Nyssen à Strasbourg, Gérald Darmanin à Vichy, Jean-Michel Blanquer à Alençon, Jean-Yves Le Drian à Abbeville, Bruno Le Maire à Pessan. Dans le Gers, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, Muriel Pénicaud à Bayeux, Nicolas Hulot aux Arcs-sur-Argent, et bon, voilà.
Bon, vous allez peut-être pas.
Non, je vais pas faire toute la liste, mais c'était pour vous donner une petite idée.
Giscard faisait mieux, il recevait les éboueurs à l'Elysée.
Les ministres sont allés au
Vert
pour retisser le lien avec la province. J'imagine que ça fait réagir sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret.
Quoi ? Ils vont au contact des bouseux, des riens, des fainéants, s'étonne Chani comme beaucoup. Après avoir plumé les Français, les ministres vont en province pour leur expliquer qu'ils n'ont pas froid, grince Alain. Ah, la province, ce mot qui n'existe qu'à Paris et que beaucoup d'internautes détestent. Hein. De la com, c'est ce qu'ils font depuis un an, tac Leclerc. Ce qui énerve Guillaume, c'est l'impression que quand des gens sont contre une réforme, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. On est trop cons, il faut nous expliquer encore et encore, s'agace-t-il. Pas besoin de venir nous voir si l'action était efficace et visible. Quand je dois aller expliquer, chez moi, c'est qu'il y a un problème, remarque Fanto. Nicolas Bay du FN écrit que 3/4 des ministres sont inconnus des Français, cette grossière opération de com' qui donne l'impression d'un safari photo, ne fait que souligner la profonde fracture entre le gouvernement et les territoires. Et Claude Delaché, Macron n'a-t-il pas assez de son armée de députés pour assurer sa propagande ? Il lui faut envoyer des ministres, sans doute désœuvrés, pour battre la campagne. Arrêtez de participer à cette démagogie ambiante en dénigrant toute action positive, soupire quand même Annick.
Ah,
si les gens viennent dans un esprit de construction, moi je trouve que c'est une bonne initiative, confirme Arnaud. Du renouveau dans l'action politique, salut même Yassine. Préférez-vous qu'ils restent à Paris sans écouter les Français, demande Pascal. Parce que vous croyez qu'ils viennent nous écouter, ricane enfin Arnaud, qui pense lui que c'est surtout l'occasion pour Macron de tester la popularité ou non de chacun de ses ministres.
Voilà, merci Benoît Galeret. Je vous donne tout de suite la parole, Elisabeth Lévy, parce que, alors ça, je sens que cette opération vous inspire.
Ah oui, c'est du muret, là, c'est du pur foutage de gueule, c'est même pas de la com', excusez-moi, pardon, que les auditeurs me pardonnent cette expression, mais il n'y en a pas d'autres.
On a compris.
En l'occurrence, non mais je vous lis quand même. Hein. Oui. Le gouvernement vient à votre rencontre, donc il nous convie à des réunions publiques à travers la France pour dialoguer et tracer les perspectives de la transformation engagée il y a un an. Et alors, dans un mois, et après, pendant, ils vont passer un sale quart d'heure, évidemment, enfin, ou un mauvais quart d'heure, ils vont s'enquiquiner.
Ou ils vont se faire engueuler, peut-être, pour certains.
Et après, pendant 6 mois, ils vont nous dire « Nous avons rencontré des Françaises et des Français de partout qui nous ont fait part de leurs craintes, de leurs angoisses, mais aussi de leur... Non mais c'est du flan, c'est on se moque de nous là, c'est, on est là, je veux bien que...
Mais on se moque de nous, c'est s'il reste à Paris...
Non mais on joue à la proximité, si vous voulez, à la limite, je ne sais pas ce que je veux dire, on peut discuter, et Roland a certainement des idées là-dessus, sur le fait que les gouvernants... Non mais sur le fait que les gouvernants aient peu de finalement de retour sur la société et de moyens de la connaître. Mais ça c'est quand même, ça c'est même pas de la com. C'est du festivisme, c'est,
bah, vous avez dit du foutage de gueule, et on comprend l'expression, même on l'accepte.
Mais je vous présente mes excuses néanmoins.
C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, parce que moi j'ai entendu moult débats sur cette antenne et sur les autres, où plein d'observateurs aguerris disaient c'est quand même un problème, parce qu'il y a Macron, et puis il n'y a personne pour exprimer quoi que ce soit de politique au nom du gouvernement, au nom de la majorité, des jeunes députés et Macron, et c'est tout. Là, du coup, ils obligent les ministres à faire le boulot, et évidemment, on leur dit, c'est de la blague. C'est quand même très dur hein, de gouverner avec ce regard permanent et critique de façon permanente des observateurs les mieux attentionnés. Donc voilà, moi je ne trouve pas anormal que les ministres aillent causer. L'inconvénient, c'est que pour l'opinion, si c'est de ça qu'il s'agit, l'opinion d'abord, c'est jamais une opération de communication qui change quoi que ce soit. Il faut des tas d'opérations continues toute l'année pour éventuellement montrer qu'on est au boulot et qu'on fait des choses et qu'éventuellement elles sont bonnes. Mais surtout, dès que vous avez un truc comme ça, on apprend quoi ? Qu'il faut s'inscrire pour les réunions sur Internet à l'avance. Bravo la spontanéité. Et le porte-parole du gouvernement, ce monsieur Griveaux, qui n'en manque pas une, nous dit « Oh, c'est pas grave s'ils connaissent pas bien les dossiers des autres, on leur a préparé des fiches thématiques. » Non mais voilà.
Mais vous espérez quoi d'autre si, de ce genre de choses ?
Comme si dans la communication, il y avait vraiment une grave erreur de communication. Puisqu'on veut jouer la proximité, on la joue.
Mais non,
on prend le risque d'aller voir les gens, pas seulement en province, car une réunion...
Mais c'est du flan, la proximité, enfin, Paris, c'est pas comme ça qu'on dirige.
Que Madame Buzyn, j'en sais rien. C'est pas du flan, il faut que les ministres aillent sur le terrain. Il le faut. Que vous preniez ou ça comme du flan, ils doivent le faire, ça fait partie du boulot. Un ministre n'est pas seulement un ministre de son département.
Que Blanquer aille dans des lycées, ça je veux bien.
Olivier Mazerolle.
Responsable de l'ensemble de la politique
mais
du gouvernement.
Je reprends ce que dit en partie Roland, c'est-à-dire que effectivement, je crois que c'est bien qu'ils aient l'occasion de rencontrer des personnes qui sont anonymes, qui n'ont pas vocation à représenter d'autres, qui expriment une opinion personnelle. Simplement, on n'y va pas comme ça. On y va à l'improviste. Et sans que personne ne soit prévenu à l'avance. Et on rencontre effectivement X ou Y, je ne sais pas où, évidemment. Dans la rue, voilà. Dans le métro, où vous voulez.
C'est un petit sondage à ce moment-là qui vaut ce qu'il vaut.
Et on n'informe pas, notre profession. On n'informe pas notre profession, surtout pas. Il ne faut pas qu'il y ait de journalistes qui soient présents, de photographes qui prennent des photos.
Excusez-moi, les ministres se déplacent tout le temps, ils rencontrent des gens.
Il faut des discussions. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que dans notre profession, peut-être qu'on serait bien... inspiré également d'aller voir aussi de temps en temps.
À sortir un peu du périphérique.
De parler aussi avec ceux qui, tout simplement, nous écoutent. Ils ont certainement aussi des choses à dire.
Parce que vous parlez jamais,
pour prendre un peu l'air du temps, la respiration. Savoir, pas forcément, encore une fois, des gens qui ont des grandes idées à développer, mais qui expriment quelque chose.
Donc le problème, là, c'est la mise en scène. C'est l'annonce, c'est l'organisation, c'est la mise en scène.
C'est aussi de faire croire aux gens qu'on va leur demander de dire ce qu'ils veulent qu'on fasse. C'est un problème.
Je ne crois pas qu'on soit dans une démarche qui consiste à aller écouter. Je pense que la simultanéité de la présence de ces 29 ministres me laisse penser qu'il y a, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'ils gouvernent un peu avec cette volonté de pragmatisme qui est importée de l'entreprise, il y a quelque chose de l'ordre de l'entreprise qui s'exprime. Ça me fait penser, lorsque vous êtes, pour avoir un peu collaboré à des entreprises, on sait que ces grandes entreprises, parfois, font ce que l'on appelle des roadshows. C'est-à-dire qu'elles vont au-devant des investisseurs. L'investisseur, pour une démocratie, c'est l'électeur. Donc on fait un roadshow, on envoie un certain nombre de représentants de l'entreprise gouvernementale au-devant de ces investisseurs qui sont les électeurs. Je crois qu'il y a là un principe qui est un peu importé du monde de l'entreprise et qui ne me paraît pas totalement en conformité avec l'idée que l'on se fait de l'écoute du citoyen. Néanmoins, je ne condamnerai pas de manière radicale une démarche qui consiste tout de même à envoyer les ministres faire le boulot, expliquer des réformes, tenter de se faire comprendre, et effectivement, comme ça a été dit, on reproche tellement au président de la République d'être mono-détenteur du pouvoir, qu'il ait autorisé ses 29 ministres à aller sur le terrain,
non, mais
ça me paraît
avec
plutôt...
Avec un petit problème aussi sur le président de par rapport à la province.
Mais hein, non,
c'est pas la province. C'est l'ensemble des régions françaises. D'abord, c'est pas le mot, c'est le mot province. Ce sont des régions tout à fait respectables. Je terminerai juste avec cette idée que derrière cela, il y a une obsession de pragmatisme qui repose toujours le problème du discours idéologique qui accompagne l'action de ce président. Il y a toujours ce petit manque de compréhension du cap qui nécessite tout de même autre chose que ce roadshow un tout petit peu, je dirais, utilitaire.
Moi, je trouve que c'est du start-upisme version macroniste dans ce qu'il a absolument de pire. Et en plus, non, il y a derrière. Là où est l'entourloupe, c'est qu'on fait croire aux gens qu'ils sont associés à la décision. Comme ils ont fait avec l'affaire d'En Marche, on va les écouter, ils vont nous dire ce qu'ils veulent et puis on va le faire.
C'est écrit,
dialoguer et tracer les perspectives.
Donc on va vous dire.
Xavier a donné tous les arguments. Excellent. Il a fait une description absolument excellente.
Et puis après, il dit finalement c'est bien.
Et puis à la fin, il nous dit c'est bien.
Non, mais c'est pas si mal.
Vous êtes en même temps histe.
Je suis, mais bien sûr que je suis
en même temps histe.
On va marquer une pause et ensuite parler d'un sujet qui est sans doute beaucoup plus grave, notamment révélé par le Comité consultatif national d'éthique hier. C'est la situation des personnes âgées en France. Allez, à tout de suite sur RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot.
Elisabeth Lévy, Olivier Mazerolles, Roland Kayrol, Xavier Couture et Benoît Galeret pour les réseaux sociaux. On évoque ce jugement, ce regard très sévère porté par le comité d'éthique sur la situation, le sort des personnes âgées en France, notamment dans les EHPAD. Le comité d'éthique parle de ghettoisation, de ségrégation et à l'arrivée parle d'un véritable délabrement éthique en France dans la manière de s'occuper des personnes âgées. Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Le plus repris sur le sujet aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez qui tweete depuis un EHPAD de Moselle. J'ai voulu lancer un cri d'alerte, on ne donne pas les moyens nécessaires aux maisons de retraite. Nous ne sommes pas dignes dans la façon dont nous traitons nos anciens. Ça doit s'arrêter. Situation déplorable, confirme Marie. Ils peuvent plus se nourrir, plus de soins. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle. Ils ont fait la France d'aujourd'hui et ils n'en profitent pas, s'énerve-t-elle. Bah oui, il n'y a qu'à Faucon, se moque alors Canac. Très bien, mais à part brailler sur des problèmes connus depuis plus de 20 ans, que proposez-vous ? Car là, c'est cher payé pour une banalité de plus, grince Fred. Ça pue la démagogie comme d'habitude. Donner les moyens, bien sûr, qui ne voudrait pas. Mais on le prend où, l'argent ? C'est encore de la vieille politique, ça a de l'électoralisme pour creuser la dette, accuse Damois. Mais plus de 2000 euros pour dormir et manger deux petits pois, ça vous semble normal ? On a laissé les investisseurs s'engouffrer là-dedans et c'est la réalité, il faut réagir, supplie Caroline. Les EHPAD sont submergés notamment parce qu'ils acceptent des résidents non dépendants pour un maximum de profit, dit Vasselot. La plupart appartiennent à des grands groupes qu'on peut contraindre, assure-t-il. J'ai une question, monsieur le président de région, conclut Cédric. Il est parti où l'argent du lundi de Pentecôte que les Français offrent généreusement depuis maintenant plus de 10 années.
Voilà, bonne question posée par des internautes, Benoît Galeret. On rappelle, il y a aujourd'hui 1,5 million de personnes en France de plus de 85 ans. Il y en aura 5 millions à l'horizon 2050. Vous avez jeté
et en plus, on sera dedans.
Oui, voilà, ça c'est certain. Ça c'est certain, si on est encore là, Elisabeth.
Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude.
Bah, bien sûr.
C'est vrai que lorsque l'on regarde le rapport, je n'avais pas conscience qu'il y ait une population de 500 000 personnes âgées dans les EHPAD, 500 000. Dont 70% sont en perte d'autonomie, et donc 40% avouent être en situation de dépression ou de proche de la dépression.
Et 11% avec des envies de suicide.
C'est terrible. C'est-à-dire que, effectivement, ce rapport, moi, je le découvre, n'étant pas non plus de la première jeunesse, mais je découvre ça non pas à titre personnel, puisque tout va bien, merci, mais je trouve que c'est la situation qui est décrite dans ce rapport mérite, alors je ne sais pas si ça mérite de faire une déclaration à caractère politique comme l'a fait Wauquiez, mais en tout cas, une prise de conscience de l'ensemble d'une population qui est notre belle population française, à l'heure où le baby-boom, dont je fais partie et dont autour de la table nous faisons un certain nombre de parties, et qui va amplifier encore.
Mais prise de conscience, ça veut dire accepter par exemple qu'il va falloir payer beaucoup plus.
Mais c'est faire en sorte qu'il y ait une prise en charge, qu'on endosse cette population sur le plan culturel, sur le plan, pas uniquement sur le plan matériel. Il ne s'agit pas de se culpabiliser et de traiter les vieux comme on traite des clochards. Il s'agit de savoir s'il y a une place qui est sur le plan culturel, oui, social et aussi économique dans une société qui aujourd'hui va voir sa population vieillir de manière spectaculaire dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
Elisabeth Lévy.
Bon, d'abord, très vite, d'abord, quand on utilise le mot « vieux », si vous voulez, c'est en général pour déprécier quelque chose. C'est-à-dire, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, une scène entre Alain Finkielkraut et une jeune femme où il parlait de féminine, et à un moment, Larry Cannell a dit « Ah, ça, c'est papy Finkielkraut ». Or, nous-mêmes, tout le temps dans la vie, parce qu'évidemment, on préfère être jeune que vieux, sauf que ça ne dépend évidemment de personne,
c'était
et que ça
assez,
arrive...
C'était assez bien vu, quand même.
Oui, ça, c'est vraiment... Je n'ai pas envie de répondre à cette insulte gratuite et débile. Excuse-moi.
Merci.
Non, ben franchement, je veux dire, papy Finkielkraut, c'est bien vu, je trouve ça, excuse-moi, mesquin et pas mal. D'accord, très bien. Ton opinion est très intéressante sur le sujet.
Si on fermait la parenthèse.
Je referme la parenthèse. Voilà. Je dis juste que je suis toujours frappée par le fait que quand on dit vieux, tout le monde trouve ça normal qu'on dise « Ah, ça c'est vieux !» Et vous allez vous écouter à la radio, vous pourriez jamais dire ça, on vous dirait que c'est discriminatoire sur toute autre caractéristique de la personne. Vieux, on a le droit de dire, de jeter à la gueule des gens qui sont vieux. Mais la deuxième chose, si vous voulez, qui me frappe, moi, dans l'étude, très vite, c'est l'isolement. Or, cet isolement vient de quoi ? D'un paradoxe, d'une folie française. Les plus grosses manifs en France, c'est pour le droit à la retraite. Or, tous les gens, tout le monde vous dit que ça commence, le déclin, l'isolement, la rupture, c'est quand on commence, on arrête de bosser. Donc arrêtons de dire aux gens...
Enfin là, le problème ne porte sur ces personnes qui sont en état de dépendance.
Non mais moi, je parlais au-delà des EHPAD.
Oui,
on parlait du statut de la vieillesse en général.
Un mot qui me paraît fondamental, c'est que au-delà de ce que disait M. Finkielkraut ou pas, il y a aujourd'hui une problématique qui est liée à l'abandon de la vie rurale qui faisait que les vieux étaient pris en charge, les vieux, je prends le mot comme pour ce qu'il est, étaient pris en charge par la communauté de
village. Ils sont isolés entre eux.
Le monde urbain a amené à cet isolement.
Dans quelles conditions?
40% qui n'ont pas de rapport avec leurs enfants.
Je voudrais entendre Roland avant de marquer une pause.
Encore
une pause.
Moi, je pense que la façon dont une société traite ses vieux, parce que vieux n'est pas un mot pire que jeune, la façon dont une société traite ses vieux est un indice absolument qui ne trompe pas de l'état progressiste d'une société, comme celle dont il traite d'ailleurs ses prisonniers, autres populations d'exclus. Moi, ce qui m'intéresse dans ce rapport, parce qu'on savait à peu près ça quand même, ce qui m'intéresse, c'est les pistes pour l'avenir. Et il y a une piste pour l'avenir qui est très intéressante dans ce rapport, qui est la déghettoisation des EHPAD, notamment.
C'est les construire.
Le fait qu'on les construise au sein d'ensembles où il n'y ait pas que des personnes très âgées dépendantes ensemble, mais où ce qu'elles ont encore d'autonomie puisse être utilisé, soit pour gérer elles-mêmes leur affaire, leur chambre, soit aussi pour voir les autres. Bon, ça, je trouve que c'est très intéressant, mais ça va mettre des années, ça, si on s'y met. En revanche, dans l'immédiat, moi, j'ai deux pistes suivre, mais il y a ces deux phrases.
Oui.
La première, si vous avez des parents, des grands-parents ou des voisins qui sont dans des EHPAD, allez les voir. Parce que c'est trop facile de se débarrasser des personnes âgées et de les laisser décrépir. Ils ont besoin qu'on les voie. Et la deuxième, c'est des moyens. Et c'est d'abord de ça qu'on a besoin. Et c'est, à mon avis, une nécessité nationale absolue. Renonçons à un jour de vacances, à deux jours de congé, et consacrons-les uniquement aux EHPAD.
Allez, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour refaire le monde une dernière fois avec Elisabeth Lévy, Olivier Mazerolle, Roland Quayrol et Xavier Couture. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde, Vincent Parisot.
Bon, il nous reste très peu de temps. On va donc évidemment zapper le foot et revenir quand même sur quelque chose qui est, on le disait, très inquiétant, ce jugement du comité d'éthique sur les personnes âgées, la ghettoisation des EHPAD. Et vous vouliez, Olivier Mazerolle, citer Brel, citer un extrait de chez ces gens-là.
Oui, pour dire que ça n'a pas toujours été non plus le nirvana, même lorsque les familles prenaient en charge leurs grands anciens, c'était pas toujours très beau, et donc ce passage de chez ces gens-là, de Brel, ces gens-là, et puis il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. C'était aussi une réalité dans le passé. Bien, alors maintenant... La situation dans les EHPAD est absolument honteuse. Et la manière dont sont traitées ces personnes qui ont perdu leur capacité de mobilité ou même parfois qui n'ont plus toute leur raison est effectivement honteuse. Simplement, arrêtons de stigmatiser tout le monde. On stigmatise par exemple les retraités en disant ben oui, mais ils ont profité de la belle vie, ils ne sont pas préoccupés de l'avenir de leurs enfants. C'est honteux de dire ça. Mais la génération actuelle, pourquoi elle ne s'occupe pas plus de ces anciens? D'abord, il y a tout l'ensemble, le dynamisme de la société, on parle, il faut réussir, bref. Mais regardez bien les choses, l'allongement de la durée de la vie qui a créé en grande partie cette situation aussi, elle est arrivée en même temps qu'explosait le chômage. Et la préoccupation de la société, la préoccupation première, ça a été de dire, mais comment on va lutter contre le chômage? Comment on va trouver des jobs pour les gamins, pour les enfants, de façon que nos enfants vivent mieux? Et on a oublié cette situation-là. Donc ça date maintenant de nombreuses années. Il faut effectivement trouver le moyen de revenir, mais ça va prendre du temps, comme le disait Roland. Même si on trouve, si on veut simplement s'y attaquer.
Merci Olivier Mazerolles, merci Elisabeth Lévy, merci Roland Carole et Xavier Couture. Merci à vous tous, Benoît Galeret évidemment. Demain, vous retrouverez à cette place Bernard Poirette. Et dans un instant, ce sera l'heure du crime évidemment sur RTL avec Jacques Pradel.
Vous écoutez RTL.